Ce que nous avons appelé l'accident eut lieu sur la rivière Green, non loin de la frontière séparant l'Utah du Colorado. Jusqu'à ce moment, notre vie avait suivi son cours ordinaire, avec ses moments de bonheur et ses désirs insatisfaits. Mais Owen a disparu ce jour-là, et nous nous sommes retrouvés à trois, sans lui. En vérité, cela se passe ainsi. Vous vous réveillez un matin sans savoir que la journée va tourner au désastre. Vous faites ce qu'on attend de vous. Vous préparez chaque étape, vous posez les questions appropriées, vous envisagez la situation sous tous les angles. Vous vous comportez en parent responsable, et malgré cela, la situation dérape. Elle vous échappe, un enfant de 8 ans vous échappe et meurt. La destinée n'a rien à voir là-dedans. Cette mort est l'aboutissement d'une série de décisions, grandes et petites, de pas franchis ou non, de résolutions prises il y a trop longtemps pour laisser de traces. Les choses auraient pu se terminer autrement, mais ce ne fut pas le cas. Un enfant vous a échappé. Autour de vous, des gens disent que rien n'égale votre malheur, qu'ils ne peuvent imaginer ce qui vous arrive. En réalité, ils ne peuvent imaginer qu'un tel malheur puisse leur arriver. Vous incarnez désormais ce cauchemar qui, de nos jours, hante tous les parents. Dans un monde qui promet aux enfants sécurité et bonheur, cette mort ne peut être qu'un échec personnel, un crime contre la civilisation, un outrage à nos aspirations collectives. Les générations précédentes ne pouvaient éviter de telles fins de vie. Aujourd'hui, elles tiennent de l'aberration, de la faute de négligence. La perte d'un enfant est intolérable et impensable.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
S'interdire d'y penser ou le redouter sans cesse n'y change rien. Être parent, c'est se retrouver glacé d'effroi à chaque fois que l'on songe à l'éventualité de la disparition de notre enfant. C'est avoir les larmes aux yeux en découvrant aux infos le visage d'un gamin qui aurait pu être le nôtre. C'est se surprendre à invoquer un Dieu auquel on ne croit pas lorsqu'un retard incompréhensible, une maladie, un accident nous rapproche de l'impensable. Mais être parent, c'est aussi lutter au quotidien pour ne pas laisser la terreur et la culpabilité nous dévorer. C'est s'évertuer à ne pas faire reposer sur nos enfants ce poids suffocant afin qu'ils grandissent en prenant confiance en eux. Être parent, c'est difficile, compliqué, souvent épuisant, toujours magnifique. C'est accepter le risque de vivre et donc celui d'être confronté à la mort. Disaster Falls est le nom donné à un passage périlleux sur la rivière Green qui coule aux limites de l'Utah et du Colorado. C'est aussi le titre d'un livre de Stéphane Gerson, traduit par Thomas Griot, publié chez Alma. Un livre qui relate le traumatisme de sa famille après la noyade de son fils cadet, Owen, âgé de 8 ans à l'été 2008, et que l'on ouvre avec une certaine crainte. Et en effet, Disaster Falls ne peut se lire que par petites plongées dans un récit parfois suffocant, qui soulève en nous sidération et empathie. Car l'auteur, par la force nue et la sincérité déchirante de son écriture, nous rend partie prenante de sa douleur et jamais, jamais, pas une seule fois voyeur d'un drame transformé en littérature. Historien, spécialiste de la France contemporaine et directeur de l'Institute of French Studies à la New York University, Stéphane Gerson entre avec ce livre dans notre famille littéraire la plus précieuse, celle des auteurs qui nous rappellent ce que c'est qu'être humain. Bonsoir Stéphane Gerson.
Bonsoir Catherine Devin.
Vous appartenez, par vos origines familiales, à la fois à l'Europe et aux États-Unis. Vous êtes belge et américain de nationalité, et donc vous êtes en fait porteur de deux coutumes, de deux civilisations, de deux manières assez différentes d'affronter le deuil. C'est vrai que souvent, en France comme en Belgique, le deuil devient une affaire intime, privée, qui finit par laisser les étrangers à l'extérieur. En vous lisant, on a l'impression que, aux États-Unis, la première partie du deuil est vraiment une affaire collective. Comme si, non seulement la famille, mais les voisins, les amis, les simples connaissances, même les gens qui ne vous sont rien, mais qui apprennent votre douleur, viennent autour de vous pour vous aider à la porter dans les premiers temps. Et à vous lire, on sent à quel point, au début, ça peut être utile Et comme assez vite, ça devient un poids. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est déroulé pour vous ?
Oui, en tout cas pour nous, je ne sais pas si c'est le cas partout aux États-Unis, mais c'est vrai que pour nous, on a eu la chance d'être entourés par des membres de notre famille et des amis. Nous avons une maison, enfin, je travaille dans la ville de New York, mais on a une maison au nord, à Woodstock, et on a passé un mois dans cette maison, au fin fond d'une forêt, entouré d'amis qui s'occupaient de nous, s'occupaient de notre fils aîné Julien, qui nous achetait à manger, qui nous protégeait aussi des rencontres inopinées, des mots parfois douloureux. De gens dans la rue. Et ce qui, au départ, en tout cas pour ma part, m'a réconforté, est devenu difficile, pénible, dans la mesure où j'avais déjà perdu tant de choses avec la mort de mon fils, tant d'aspects de moi-même, et là je perdais d'autres choses. On s'occupait de moi, je ne vivais plus d'une manière autonome. Ma maison était habitée au début par des gens, puis rapidement c'est devenu un petit un envahissement. Et j'avais honte de ce sentiment, alors que je devais prouver de la reconnaissance. Mais c'est mon fils aîné, Julien, qui avait 12 ans à l'époque, qui un jour nous a dit... Demain, j'aimerais qu'on ait une journée à trois, rien que nous dans la maison, et j'ai ressenti du soulagement lorsqu'il a dit cela.
Alors, Stéphane Gerson, vous êtes ce qu'on appelle vraiment purement un intellectuel, vous écrivez, vous enseignez, vous êtes dans les livres et la littérature, et très vite, quelques jours à peine après cet accident, vous vous mettez à écrire et vous le racontez d'une manière obsessionnelle. C'était une graphomanie débridée, comme si c'était quelque chose qui vous aidait peut-être à comprendre, à envisager l'inenvisageable. C'est comme ça, comme un médicament.
L'écriture s'est emparée de moi. J'avais gardé un journal intime vers l'âge de 18-20 ans, puis j'avais cessé. Et puis là, maintenant, dans ma quarantaine, deux semaines après les funérailles d'Owen, j'étais dans mon bureau. Je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, mais je devais aller quelque part. Et j'ai commencé à tenir un journal, un journal de deuil, qui est devenu, comme vous le dites, obsessionnel. À tout moment, j'écrivais, j'essayais de travailler. Et sur mon ordinateur, j'avais toujours deux fichiers ouverts, le journal et la tâche à laquelle je m'attelais ce jour-là, et j'allais de l'un à l'autre. Je vivais dans deux mondes par l'écriture. Et cette écriture était en fait, c'était une écriture, une chronique, je pense. C'était une écriture sur moi, sur ce que je ressentais en moi, autour de moi, dans la famille, dans mes rapports avec mon épouse Alison et avec mon fils, avec la famille, avec les amis, et dans le monde, comment on nous percevait, le langage que les gens utilisaient. Et donc, je suis devenu chroniqueur de ma propre personne et de ma propre existence. Et ça, je le faisais à tout moment. Et lorsque j'étais loin de mon ordinateur, j'écrivais des petits morceaux sur des morceaux de papier, des petites notes que je mettais dans mes poches et que je transcrivais plus tard. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et en me demandant pourquoi. C'était pas un choix. C'était quelque chose d'indispensable. Je me demandais pourquoi. Et après, bon, j'ai essayé de comprendre. C'était une manière peut-être de nous tenir à distance, de tenir le réel à distance, pas par les mots, tout en essayant de comprendre. De comprendre ce qui s'était passé ce jour-là, de multiples manières, de comprendre ce qui changeait en moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mes rapports avec les autres.
Oui, Stéphane Gerson, on est un peu aspiré dans une sorte de vertige quand on rentre dans votre livre dès les premières pages, parce que on se rend compte que vous notez absolument tout, les détails, les clichés. Il y a un rôle aussi dans. C'est vrai que lorsqu'on est face à un deuil aussi insupportable que celui-là, la perte d'un enfant, les gens ne savent pas quoi dire. C'est très rare ceux qui trouvent les mots, le bon moment, quel mot. Les gens ont tendance à parler en fait en clichés. Vous avez une étude là-dessus en disant finalement les clichés, au bout d'un moment c'est réconfortant, puis il y en a certains quand même qui demeurent un peu insupportables, notamment ceux qui disent vous allez en tirer quelque chose.
Oui, il y a des choses pénibles. Le plus difficile pour moi c'était sans doute les gens qui, bien intentionnés, me disaient j'embrasserai mon enfant un peu plus fort ce soir. C'était difficile. Mais dans l'ensemble, je me souvenais moi-même, 20 ans plus tôt, avoir écrit, tenté maldroitement d'écrire à une amie après la mort de son frère, et m'en est très mal sorti, en fait. Donc j'avais de l'empathie pour les autres. Et je lisais ces mots, ces cartes, ces mails, ces centaines de mails que j'ai tous gardés dans un sac. Je me sentais entouré dans un nuage de mots. Et c'est vrai que je commence à reconnaître des récurrences. Et j'avais une amie, une écrivaine, qui avait un regard très critique sur les clichés, alors que pour moi, les clichés, c'était aussi le commun, c'est ce qu'on partage. Ça montre le désarroi aussi, on recherche quelque chose. Et puis, de temps à autre, on reçoit un mail, on reçoit une lettre, quelque chose qui perce et qui me touche. Je me souviens d'une amie qui m'a écrit et le courage d'apprendre à ton fils à devenir un homme heureux. Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire.
Au frère de Gwen, à votre fils aîné.
À mon fils aîné, pardon. Oui,
à Julien.
À mon fils aîné.
Ouais.
À Julien, apprends-lui à devenir un homme heureux. Trouve ce courage. Et je ne comprenais pas, mais j'y ai pensé. Et ça m'a inspiré, ça m'inspire encore aujourd'hui.
Alors Stéphane Gerson, le jour où vous avez décidé de faire de ce journal intime débordant un livre, vous avez donc, vous vous êtes replongé plusieurs années après le drame dans cette écriture. Comment est-ce que vous avez considéré ce que vous aviez ? C'était une matière brute. Là, vous l'avez organisée, on en parlera un peu plus tard, de manière concentrique. C'est un livre assez sophistiqué qui tourne avant d'arriver à la description de l'accident proprement dit. Vous avez considéré cette matière brute de quel regard ? Est-ce que vous vous êtes emporté ? Est-ce que vous avez beaucoup éliminé ? Est-ce que vous vous êtes retrouvé vous-même voyeur de votre propre douleur ?
Pas voyeur, non, mais une facette de l'historien en moi a pris cette chronique comme une archive. J'avais créé cette propre archive de ma propre existence, mais pas une existence individuelle, une existence collective, au sein de la famille, au sein d'un monde. Et j'avais ces documents, je ne sais pas moi, c'était un million de signes, c'était énorme. Et si la démarche du premier moment d'écriture était une démarche documentaire, de chronique, d'exhaustivité, là, c'était autre chose. Là, pour moi, j'avais un désir d'écrire quelque chose d'esthétique, de donner sens, de créer un récit. Et à nouveau, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Je n'avais jamais écrit ce type d'ouvrage auparavant. Et je me rendais compte de l'importance de créer quelque chose qui avait une forme, qui avait une certaine esthétique, peut-être en réaction au drame, à l'aurore que nous avions vécu. Et aussi le besoin que j'avais de créer un récit avec un début, un milieu, une fin.
Stéphane Gerson, ce qui est aussi extrêmement émouvant dans votre livre, c'est la façon que vous avez de regarder les deux membres restants de votre noyau familial, c'est-à-dire votre femme, Alison, et votre fils aîné, Julian. Comment ils réagissent par rapport à vous ? Et on se rend compte à quel point la qualité humaine, notamment de votre épouse, Alison, qu'est-ce qu'il y a de plus déchirant que d'observer une mère essayer de survivre à son fils ? Et vous avez des pages absolument formidables sur elle. On va en écouter une. C'est notre ami Laurent Stocker de la Comédie Française qui nous a prêté sa voix.
Alison avait besoin de se sentir mince, vide à l'intérieur. Voilà pourquoi elle se dépensait jour après jour à la salle de sport ou le plus souvent lors de longues promenades matinales. Par temps froid, elle s'équipait de collants noirs, d'un maillot de compression noir et d'une veste noire. Elle enfilait des gants et un bonnet, noirs eux aussi. Je lui dis un jour qu'elle ressemblait à une cambrioleuse, mais ce n'était pas cela. Elle incarnait une version contemporaine de la veuve victorienne, signalant sa condition par des rituels visibles de tous. Alison expliqua qu'elle dispersait l'énergie qu'elle aurait consacrée à Owen et aussi qu'elle avait besoin de l'énergie d'Owen, de sa parole et de son mouvement incessant. Un matin, effondré dans le canapé, j'ai suivi du regard Alison alors qu'elle circulait d'une chambre à l'autre. Ses déplacements incessants me renvoyaient à ma propre immobilité. Alison recherchait la monotonie et évitait certains sons. Elle n'écoutait plus de musique parce que, disait-elle, un vacarme retentissait à présent en elle. Nous avions donc cela en commun, mais je craignais que, dans son mouvement perpétuel, Alison ne me perde de vue. J'aurais aimé qu'elle ralentisse et s'assoie près de moi sur le canapé, que nous restions côte à côte, jusqu'à ce que le temps s'arrête et que tout autour de nous se dissolve en un paysage aride où, comme dans les tableaux de Dali et les canyons de l'Utah, les montres fondent sur les roches rouges. Je ne me souviens pas de ce que j'ai pu dire à Alison ce matin-là, mais elle a accepté de s'asseoir et de m'écouter réciter Victor Hugo. Owen n'était plus, et pourtant, comme celle de Léopoldine, sa voix résonnait toujours dans la maison. Il m'arrivait, les yeux ouverts, de passer mes doigts dans ses fins cheveux blonds et puis de caresser sa peau douce, ses oreilles, ses omoplates, son dos lisse comme le papier, ses cuisses maigres, ses pieds démesurés que nous massions la nuit pour l'aider à s'endormir. Mes souvenirs d'Owen étaient inséparables de son corps. Voilà ce que je ressentais, ce qu'Hugo avait pu ressentir et sans doute ce qu'Alison ressentait elle aussi. Un matin, alors que je terminais mon petit déjeuner, elle s'est approchée sans prévenir pour me dire que nous ne respirerions plus jamais l'odeur d'Owen. Elle n'embrasserait plus sa nuque, ne caresserait plus sa poitrine, n'effleurerait plus le duvet sur ses jambes. Elle a pleuré et puis d'un coup, elle s'est éloignée. Alison m'a aussi demandé de ne plus lui lire de poèmes d'Hugo. « Tu penses trop », me dit-elle.
Stéphane Gerson, vous écrivez vos deux façons de tenter de vivre ce deuil impossible et vous exprimez à un moment, en dehors de l'amour qui a triomphé parce que ce deuil ne vous a pas séparé, mais vous étiez chacun sur un rail parallèle, mais chacun à votre façon. Et vous exprimez de la jalousie envers la façon qu'Alison avait de vivre son deuil. Vous, vous étiez plongé dans Victor Hugo, dans beaucoup d'autres auteurs qui parlent du deuil. Elle était avec Owen. Elle disait même qu'elle entendait toujours sa voix et qu'elle lui parlait, elle lui envoyait même des mails. Et vous étiez jaloux de cette manière de vivre le deuil.
Ça fait penser à votre première question sur la manière dont on vit le deuil aux États-Unis. L'idée de relation avec le défunt, de connection, comme on dit en anglais, c'était le mot qu'Alison utilisait. Elle avait cette relation, ce rapport étroit avec son fils. Elle le voyait dans la nature. Il y a un lapin traversait la route. C'était un signe d'Owen. Une brise, le vent, le jour des funérailles, c'était Owen. C'est venu naturellement chez elle. Il me semblait que dès le départ, elle avait une ligne directrice. D'abord, elle n'a jamais douté de l'amour qu'elle avait avec son fils, ce qui renvoie un peu au rapport qu'elle entretenait avec lui de son vivant. Mais ensuite, elle n'a jamais douté non plus qu'il était à ses côtés. Elle était triste, elle était désemparée, mais il était là. Et tout ensuite s'est mis en place. Tandis que pour moi, c'était beaucoup plus compliqué. Mon rapport avec lui était déjà plus compliqué, d'une certaine manière. Et puis, quand je voyais un lapin, je ne croyais pas que c'était lui. J'ai essayé toutes sortes de... Je me suis dit qu'il faut que je trouve cette relation, cette connection. Comment vais-je la trouver? Et donc, si j'étais jaloux, c'était jaloux plutôt de cette plénitude qu'elle avait, de ce rapport, de cette intimité qu'elle avait avec Owen. Et je me rendais compte que ce qui fonctionnait pour elle ne fonctionnerait pas pour moi. Et c'est finalement, j'ai dû accepter que ma manière de le faire, ce serait par l'écriture. Mais ça a pris longtemps.
Alors Stéphane Gerson, il y avait une troisième personne à affronter ce deuil. C'est le frère aîné d'Owen, Julian, qui avait à l'époque pas encore tout à fait 11 ans et qui allait rentrer dans l'adolescence. Il venait de perdre son frère. Et vous vous êtes senti assez mal à l'aise pour vivre avec lui. Pour tantôt vous étiez trop proche, trop protecteur, le couvant, le tenant par la main, et au contraire parfois c'est lui qui cherchait à se dégager de ce deuil qui lui pesait dessus. Et il a eu cette phrase que vous rapportez, tu ne ris plus jamais, je suis le seul à avoir encore envie de rire dans cette maison. On va donner la parole à Julian.
Avant de partir à l'école un matin, Julian nous a dit soudainement qu'il pense tous les jours à l'accident. Le voyage en car entre l'hôtel et la Green, le briefing sur les mesures de sécurité à respecter sur la rivière, la confusion de l'après-midi. Assis à côté de lui sur le canapé, je me rends compte que, lorsqu'il évoque l'accident, Julian parle non seulement d'un événement, mais de toute une journée. Julian nous explique que la peur l'a saisi 10 minutes après l'accident, au moment où Alison s'est aperçue qu'Owen avait disparu. Il se trouvait à mon côté en contrebas des rapides et voyait les rafts et deux keys rallier la rive l'un après l'autre. Julian et moi venions de débarquer. Debout l'un à côté de l'autre, nous espérions qu'un des rafts avait récupéré Owen. Julian nous dit qu'au moment où le raft d'Alison arriva à portée de voix, il m'a entendu lui demander en criant si elle avait aperçu Owen. Jusque-là, Alison avait pu croire qu'Owen nous avait rejoints. Julian a vu le visage de sa mère changer de couleur. Il l'a vu sauter par-dessus bord, tituber sur la plage étroite et se lancer dans une course effrénée vers le lieu de l'accident. De tout ce à quoi il assista ce jour-là, c'est le cri qu'Alison poussa avant de se jeter à l'eau qui continue à l'habiter. L'accident nous avait séparés les uns des autres. Owen se trouvait dans un endroit inconnu. Allison et moi courions, seuls, le long de la rive, et Julian demeurait sur la plage. Non pas laissé à lui-même, puisqu'il était entouré d'accompagnateurs et d'excursionnistes, mais seul face à une rivière dont le fracas se faisait de plus en plus lourd. Au bout d'un moment, voulant contribuer aux recherches, il a tenté de repérer Owen depuis la rive. Seulement, il a perdu l'équilibre, il est tombé à l'eau et fut complètement submergé. Je lui demande si quelqu'un l'a vu. Sans doute que non. Portait-il son gilet de sauvetage ? Il ne s'en souvient pas. Il parvint à remonter sur la rive et pourtant, l'angoisse me vrille le ventre. La rivière aurait pu engloutir Julian, sans que nous sachions ce qui lui était arrivé. Je n'ai aucun doute sur le fait que tout s'est passé comme il le raconte, mais il m'est impossible d'assimiler tout ceci. Je ne lui donne aucun conseil, aucune réassurance parentale, rien qui puisse donner sens à ce qu'il a vécu. J'abandonne Julian, seul avec ses souvenirs.
Stéphane Gerson, parmi les livres que vous citez, beaucoup d'écrivains français, et notamment Annie Ernaux, qui a écrit dans le livre qu'elle a consacré au deuil de sa propre famille, qui a perdu un bébé avant sa propre naissance, et elle dit « Les parents d'un enfant mort ne savent pas ce que leur douleur fait à celui qui est vivant ». Et là, vous l'avez vraiment expérimenté avec votre fils aîné. Il y a eu ce moment où vous étiez désemparé, vous ne saviez plus s'il fallait parler d'Owen, ne pas en parler. Et lui devait ressentir votre douleur comme quelque chose qui l'empêchait de vivre aussi.
Il a 24 ans aujourd'hui et il nous dit toujours, la manière dont il voit cette période de sa vie, c'est qu'il devait s'occuper de nous. Ses journées étaient rythmées par mes soupirs. Donc en fait, son rapport, on a parlé tout à l'heure du rapport corporel au deuil. Allison qui ne mangeait plus, qui courait, mes souvenirs d'Owen, le corps que je touchais. Eh bien lui, c'était le son. Encore aujourd'hui, si je fais un soupir, il me demande « ça va papa, qu'est-ce qui se passe ?» Donc il était à l'écoute et avec Allison aussi. Et il estimait que son rôle était de souvenir à nos besoins. Il y a deux choses. D'abord, comme le dit Annie Ernaux, je ne sais pas ce que c'est que perdre un frère. Et je ne sais pas ce que c'est de vivre le deuil de ses parents non plus. Et on a tous perdu Owen, mais nos expériences étaient croisées et en même temps si différentes. Et je l'observais, mais il parlait peu. Et donc je devais, à nouveau le chroniqueur en moi, devait repérer des petites choses. La manière dont il humait la casquette de Owen pour tâcher de ressentir son odeur. Ou je me disais, il refusait le cimetière. J'ai pas insisté. Et puis un jour, il m'a dit, viens voir, j'ai ce petit jeu sur mon ordinateur avec une ferme. Il avait bâti sa propre ferme, avec des écuries, la grange. Et près de la grange, il y avait une tombe. Il allait au cimetière. Il allait à son propre cimetière. Et c'est comme ça, par ces observations, que j'essayais de saisir ce à quoi ressemblait son deuil.
So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Thank you. its relations give, first of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
Vagabonde sur France Inter.
Stéphane Gerson, à un moment dans votre livre Disaster Falls, vous écrivez que vous écriviez afin d'expier. Évidemment, c'est le sujet dont on va parler maintenant qui est inévitable, c'est la culpabilité terrible d'un parent qui a laissé échapper son enfant. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? À quel moment j'aurais pu intervenir? Évidemment, tout le monde pense bien que la culpabilité est écrasante. Et pourtant, voilà, l'écriture est quelque chose qui vous a permis, on va le comprendre tout au long du livre, d'arriver à une compréhension qu'il n'y avait pas de faute, il y avait une culpabilité, on ne peut rien y faire, mais que vous n'étiez pas responsable. L'écriture, au bout d'un moment, cette enquête vous a amené à comprendre que la faute, elle se situait évidemment du côté des organisateurs qui ne préviennent pas, qui présentent cette excursion comme familiale et qui jamais ne mettent les parents devant leurs responsabilités. Mais ça a été un très long cheminement. La culpabilité était écrasante pour vous.
Oui, il faudrait peut-être dire quelque chose de l'événement même. C'est un voyage organisé par une entreprise américaine, des voyages pour famille, pour enfants, sur les brochures, on voyait des enfants à partir de l'âge de 7 ans, et tout le discours utilisé de marketing par cette compagnie, c'était venez sur la rivière, vous allez nager, vous amuser, toutes les familles. On avait des amis qui avaient fait ce même voyage en famille un an auparavant. Je suis pas un grand sportif, donc c'est pas le genre de vacances que je fais fréquemment, mais il s'avérait que Callison était dans l'état de Utah pour un colloque, et donc on a dit, bon, on va faire ça pendant 4 jours. Le premier jour, nous sommes sur le raft, la matinée se passe bien, tout est calme, on déjeune. Et puis, en début d'après-midi, on arrive donc à Disaster Falls, donc assez rapide. On débarque et on fait un repérage. Et là, je regarde, c'est rapide, et je me dis, c'est sérieux. Ce sont des catégories 3, et je me pose des questions. D'autant plus qu'il y avait des rafting, des grands rafts en caoutchouc, mais aussi des kayaks gonflables. Et donc, on se relayait tous. Et moi, j'étais dans un kayak gonflable avec Owen. Donc, je savais que c'était un peu plus compliqué que dans un grand raft avec des guides. Et à ce moment, donc, j'étais voir Allison et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, je sais pas trop. Donc, j'ai dit, bon, j'ai demandé à un guide. Et je lui ai expliqué mes doutes. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, allez-y, ça se passera bien. J'étais toujours pas convaincu. Je regarde, Owen regarde, on en parle en famille. Je vais voir un second guide, pose la même question, même réponse, allez-y. Et donc, on se retrouve là, ensemble, on doit prendre cette décision. Et tout ce qu'on a, c'est ce qu'on voit. Ce que nous faisons face. On n'a pas d'autres éléments, pas d'histoire, pas d'expérience, pas d'experts non plus. Et donc, il y a d'abord le moment de la décision. Comment allons-nous décider? Allons-nous interrompre le voyage? Allons-nous dire non à Owen une fois de plus? Parce que ça arrivait parfois. À quel moment est-ce qu'on va l'interdire de prendre des risques? Parce qu'il avait un tempérament plutôt aventurier, plus que son frère Julian. Donc, on ne peut pas toujours lui dire non. Donc, on devait prendre ses décisions. Et on voulait aussi l'incorporer dans le processus de décision. C'est-à-dire que c'est un être autonome, c'est un enfant, mais chaque enfant a sa personnalité, et donc on a pris une décision plus ou moins collective, même si les parents quand même ont leur responsabilité. Puis ensuite, on s'élance. Bon, je m'entraîne dans les détails, mais il y a eu des problèmes, beaucoup de gens ont eu des soucis, et j'étais avec Owen dans ce raft, dans ce kayak. Donc après, longuement, je me suis interrogé. Comment en sommes-nous arrivés à ce moment sur la rivière à devoir prendre cette décision? Et pourquoi avons-nous pris cette décision-là? Première chose. Deuxième chose, et donc ça c'était collectif avec Alison. Deuxième chose, c'est que s'est-il passé sur la rivière en fait? Pourquoi n'ai-je pas pu, n'ai-je pas été capable de sauvegarder mon enfant? Donc des longs moments de, enfin des années en fait de culpabilité que j'ai affronté, que j'ai tâté d'écrire l'histoire de ce lieu. L'histoire des voyages organisés, l'histoire de gens des classes moyennes comme moi qui partent en vacances et peut-être ayant grandi dans les années 80 avec l'espoir d'un certain optimisme, peut-être un manque de méfiance envers les dangers de la vie. Et puis, en fin de compte, il y a eu un processus judiciaire. Qui a dévoilé un petit peu la prise de risque.
On entendra le PDG reconnaître qu'il y a effectivement un risque mortel et que non, on ne prévient pas parce que c'est la liberté, la sacro-sainte liberté américaine. Chacun prend ses responsabilités. Mais ce qui était important pour vous aussi, c'était le regard qu'Alison, la mère d'Owen, pouvait poser sur vous.
Alison ne m'a jamais demandé comment j'avais permis que l'accident se produise. Elle aurait pu me poser la question ouvertement, ou bien dans le ton de sa voix, un regard, un geste. Sans prononcer la moindre parole, elle aurait pu découvrir que j'avais perdu son fils. Je suis resté sur le qui-vive, à l'affût du moindre reproche. Rien. Lorsque je l'ai remerciée de m'avoir pardonné, elle me dit qu'elle n'avait rien à pardonner, vu que je n'avais pas commis de faute. La grâce d'Alison, celle dont elle faisait preuve et celle qu'elle m'accordait, avait quelque chose d'éthéré. Notre psy nous affirme qu'elle n'avait jamais traité de couple confronté comme nous à la perte d'un enfant au sein duquel le parent le moins directement impliqué n'en voulait pas à l'autre. Nous sommes tous deux convenus que, si nos rôles avaient été inversés cet après-midi-là, tout aurait été plus compliqué par la suite. Je crois aux causes et aux effets, et donc à la responsabilité et à la culpabilité. Alison rejetait cette manière de penser, du moins en ce qui concerne sa famille, ce qui signifie qu'elle ne s'est pas blâmée non plus. S'il lui arrivait de se demander si nous avions commis une erreur, elle ne reconsidérait jamais nos décisions d'entreprendre ce voyage ou d'autoriser Owen à descendre les rapides. Elle ne remettait pas non plus en question ce qu'elle avait dit, ou omis de dire, pendant la reconnaissance des rapides sur la butte. Seul Owen importe. Peut-être, en effet, n'y avait-il rien à reconsidérer. Mais bien qu'Alison me déchargea d'un fardeau, cette absence de blâme me paraissait inconcevable. Ne portait-elle vraiment aucune récrimination en elle? N'était-ce pas pour cette raison qu'elle s'était excusée d'avoir évoqué l'accident un matin dans notre chambre, parce qu'elle avait senti que des griefs étaient sur le point de lui échapper? Le fait qu'Alison s'interdise de blâmer ne signifiait pas que nous occupions un monde sans reproche. Il fallait bien que quelqu'un assume la responsabilité de la mort d'Owen. Je me suis donc retrouvé seul avec Owen lors de la reconnaissance. Owen dans le Ducky. Owen dans les rapides. Une force démoniaque de terreur et de destruction m'habitait, et j'en ressentais l'intensité à chaque fois que mon corps me lâchait. Si Alison avait identifié des responsabilités, si elle m'en avait assigné et en avait assumé ne fût-ce qu'une partie, pas grand-chose, notre couple aurait pu se désintégrer. Mais je n'aurais sans doute pas ressassé aussi souvent que je ne l'ai fait nos décisions, les circonstances de l'accident et l'histoire que j'aurais voulu ignorer, celle de gens qui font de mauvais choix parce qu'ils n'entendent que ce qu'ils veulent entendre.
C'est terrible, Céline, Stéphane Gerson, parce que on sent que c'est sincère de la part de votre épouse de ne pas vous blâmer. Elle ne vous a pas tenu pour responsable, ce qui est une... C'est quasiment surhumain. Et en même temps, vous dites... Au fond, j'étais seule devant cette responsabilité que moi, je m'attribuais. Et votre couple a tenu.
Nous avons vu une psy, une thérapie de couple très, très, très vite. Et je me souviens, un jour, la psy dit que... C'est une psy qui travaillait beaucoup avec des gens qui avaient traversé des épreuves pareilles et qui a dit que jamais elle n'avait connu une situation dans laquelle le membre du couple qui n'avait pas était si proche de l'accident même, ne blâmait pas l'autre. Donc Alison lui paraissait exceptionnelle. Et cette approche, Alison l'a exprimée dès le départ, dès le premier jour, la première nuit. On a dû passer la nuit dans une tente au fin fond du canyon parce qu'il était impossible de nous en retirer ce jour-là. Et elle nous a dit, alors qu'il pleuvait dans la tente, on ne va pas retourner en arrière et ressasser l'histoire. L'histoire présente, l'histoire de ce qui s'était passé ce jour-là. On va pas commencer à se jeter le blâme. Donc c'est quelque chose, c'est un ressenti si puissant en elle qui imprimait les années qui ont suivi. Pour moi, c'était différent. Ma vision du monde était différente. J'ai plutôt tendance à chercher des causes, des conséquences, des responsabilités. Et là, c'est un nouveau moment dans lequel nos modes de deuil étaient si différents. Et donc, c'est vrai, je me suis retrouvé seul avec cette responsabilité. À nouveau, la psy l'a remarqué elle aussi. Mais je pense que l'alternative aurait été pire. Je pense que si elle m'avait blâmé, je ne sais pas si notre couple aurait survécu.
Et je ne sais pas si vous seriez vivant, parce que se faire traiter de responsable d'un tel deuil, ça ne doit pas être supportable. En tout cas, c'est un voyage en vous-même et dans cette histoire que vous avez accomplie magistralement, Stéphane Gerson. Ça va vous emmener aussi en Biélorussie, sur les traces de votre famille, parce qu'en cherchant les causes et les conséquences, vous allez remonter jusqu'à la Biélorussie, à la Shoah, jusqu'à la mort de votre père. Mais ce livre, il a un nom dans la littérature européenne, ça s'appelle « Un tombeau ». Comme les gens écrivent des textes en hommage à ceux qui sont disparus, des poètes, des peintres, des amis disparus. Vous avez écrit le tombeau d'Owen, et d'ailleurs, vous le dites clairement, vous dites « parce que tout désastre, banal ou cosmique, réclame un récit, une histoire, autant pour les morts que pour les vivants ». Et c'est très exactement ce que vous avez fait, Stéphane Gerson. Et en plus, vous l'avez fait pour nous aussi, parce qu'on a tous à affronter des drames. Et votre livre est un réconfort. Beaucoup de gens ont dû vous le dire, j'imagine.
J'ai reçu beaucoup de courriers, oui, de gens qui avaient vécu ce deuil, ou pas. Mais aussi de gens qui avaient perdu un frère ou une sœur, ce qui m'a d'ailleurs surpris.
Voilà, ce livre s'appelle « Disaster Falls ». Il a été traduit par Thomas Griot. Il vient de paraître aux éditions Alma. Et c'est un livre que nous vous recommandons évidemment beaucoup. Merci à vous, Stéphane Gerson. Bon retour chez vous.
Merci.
Au revoir.